potions maléfiques.
Des interviewés.
Et aussi des crottes de nez.
Des thèmes variés.
De l'absurdité.
De l'absurdité.
De l'absurdité.
Des portraits. Un soupçon d'actualité.
Une louche de solidarité.
Des reportages bien montés.
Salut, vous êtes sur Radio Canu, nous sommes le 3 mars, il est 17h. Pour le dernier volet de notre trilogie, joliment intitulée Mouflet, Mouflette, nous avons choisi de parler des femmes au foyer. Revenons d'abord sur les mots et leur étymologie éclairante. C'est le cas de le dire avec le mot foyer. En effet, le foyer était à l'origine le feu dans la maison. Dans les habitations des Gauloises et Gaulois, par exemple, il n'y avait pas de cheminée mais bien un foyer ouvert qui servait à chauffer l'habitation et à cuire la nourriture. Ce foyer était situé au centre de la maison. Donc aujourd'hui, par extension, le foyer désigne le centre et également la famille. Si on se penche sur l'aspect historique, on se rend compte qu'il y a souvent quand même un cliché qui ressort. L'idée circule qu'autrefois, les femmes ne travaillaient pas, elles s'occupaient des mouflets pendant que papa trimait pour payer le beefsteak. Le féminisme d'après-guerre nous aurait permis de laisser les couches pour aller mettre les mains dans le cambouis. Les faits sont évidemment bien plus complexes. Déjà, on peut préciser, parce que souvent on l'oublie, que dans certains secteurs comme l'agriculture ou le travail ouvrier, le taux d'activité des femmes a toujours été élevé et il était même parfois égal à celui des hommes. De plus, les spécialistes de l'histoire ont mis en lumière que dès le 18e, le fait de mettre ses enfants en nourrice était un phénomène généralisé dans la société française. Et on parle non seulement des enfants issus de la bourgeoisie, mais également des enfants du milieu ouvrier. Et des travaux historiques ont montré qu'à Lyon, par exemple, les femmes qui travaillaient avec leur mari, donc ouvrières de la soie, bouchères, boulangères, plaçaient leurs enfants en nourrice lorsqu'elles en avaient les moyens. Donc déjà, on peut percevoir qu'historiquement, être au foyer n'est pas la destinée naturelle du deuxième sexe que le féminisme serait venu foutre en l'air, mais bien un statut choisi ou attribué au sein d'un couple pour diverses raisons. Et pour citer la définition de l'INSEE, une femme, alors c'est assez bizarre d'ailleurs, l'INSEE dans sa définition ne dit pas une personne au foyer, ce qui me paraîtrait plus normal, mais une femme au foyer, tout de suite, voilà. Donc une femme au foyer est une femme de 20 à 59 ans, non étudiante, vivant en couple et inactive, mais nous on dira plutôt, parce qu'on n'aime pas trop le mot inactive, hein, sans profession, c'est-à-dire sans rémunération. Donc déjà on peut voir qu'on peut être au foyer sans enfant. Ça, c'est déjà quelque chose qui n'est pas forcément dans les représentations. Et par contre, les personnes qui vivent seules, monoparentales, sont exclues du champ, même si elles s'occupent de leurs enfants à plein temps. Quand nous avons décidé d'aborder ce sujet, un tas de questions nous est venu. Pour quel motif une personne décide de se consacrer au foyer? Quels enjeux économiques et sociétals sont liés à cette décision? Et puis, nos discussions ont dérivé vers le travail en général, sa représentation normative. Parce que si aujourd'hui, travailler égale gagner de l'argent, alors le travail domestique, qui n'est pas rémunéré, c'est quoi? Un travail invisible? Un travail invisibilisé? Y a-t-il des moyens de revaloriser les tâches des personnes au foyer? Et les congés parentaux au niveau de la législation, ça se passe comment? Bref, ça a chauffé sévère dans la tête de Lilith, Martine et les autres, et aujourd'hui, nous vous présentons en direct et en exclusivité les résultats de notre petite enquête. Pour débroussailler le terrain, j'allais dire le chemin, mais c'est un peu ça, je vous propose un petit point statistique avec notre spécialiste des chiffres, Lucie.
Merci. Alors, les femmes au foyer, en France, ça représente aujourd'hui 2,1 millions de personnes, contre 3,5 en 1991, donc ça a vraiment baissé. 20% des femmes sont au foyer et donc comme tu l'as dit, il y a 43% des femmes au foyer qui n'ont pas d'enfants mineurs au foyer. 8 femmes sur 10 qui sont au foyer ont déjà eu un emploi auparavant. Sur les 2 sur 10 qui n'ont jamais eu d'emploi salarié auparavant, il y en a une qui est immigrée. Donc on imagine bien que quand on n'a pas suivi sa scolarité en France etc. Ça peut être difficile de trouver un emploi quand aussi on n'a pas un réseau de solidarité comme ses parents et tout. Ça peut être difficile de faire garder ses enfants, tout ça. Donc voilà. Globalement, les femmes au foyer sont moins diplômées que les autres. Et dans les raisons qui mènent les femmes à rester au foyer, la première raison devant toutes les autres, c'est la fin d'un CDD. Donc ça, c'est aussi quelque chose de nouveau par rapport à 1991. C'est que de plus en plus, en fait, être femme au foyer, c'est quelque chose d'un peu subi. Alors qu'avant, c'était plus un choix. Avant, c'était plus quelque chose peut-être pour les femmes un peu aisées. Et doucement, doucement, depuis les années 80, en fait, il y a ce glissement qui s'opère avec la raréfaction aussi de l'emploi. Hein. Il y a de plus en plus de chômeurs.
Et la, la précarisation de l'emploi.
De l'emploi. Donc voilà pour le petit point statistique.
On s'écoute une petite musique et on continue sur le sujet tout à l'heure.
Spéciale dédicace à toutes les mamans dans Lilith, Martine et les autres. On vient d'écouter The Shirelles, Mama Said. Et puis, du coup, on enchaîne maintenant parce que Lucie a exprès pour nous interviewer sa maman. Donc, pour faire une rapide présentation de sa maman, elle s'appelle Bernadette, elle a 57 ans et elle va nous parler de sa vie de femme, sa vie de maman et sa vie de maman au foyer notamment. Elle a travaillé de 24 à 32 ans à peu près, je crois que c'est ça. Et puis à la grossesse de sa troisième fille qui est arrivée en même temps que la fin d'un CDD, ce qui arrive que tu nous le disais là juste avant, elle a décidé de ne pas reprendre le travail et de se consacrer à l'éducation de ses quatre enfants. Donc voilà, elle nous parle de son vécu, de ses choix et de sa vie de mère au foyer dans cette petite interview.
L'exploitation agricole, on va dire,
pendant les vacances.
Après, j'ai eu mon bac, j'ai fait l'école de notariat sans avoir le diplôme de fin. Et après, j'ai fait mon stage AFPA de secrétaire aide-comptable. Donc, c'était au début que le traitement de texte arrivait dans les boîtes. Donc quand je me suis trouvée sur le marché du travail avec une compétence là-dedans, tout Les boîtes d'intérim m'ont sauté dessus, donc j'avais du boulot, donc j'ai bossé un bon bout de temps en intérim. Et puis voilà, donc du coup, grosse boîte, pas comme Rhône Poulenc, etc. Donc, pas d'embauche, que de l'intérim. Voilà, et puis après, quand je suis arrivée à Grenoble, bah, c'est pareil, j'étais tombée dans une boîte qui cherchait un peu quelqu'un qui avait du vocabulaire juridique, qui pouvait taper des choses sans trop faire de grosses erreurs, de coquilles, des trucs comme ça. Mais bon, je cherchais un peu un mouton à cinq pattes, donc ça n'a pas débouché sur de l'embauche. Et puis après, ben voilà, je suis tombée enceinte de Marie, comme par hasard. Et puis là, ben, j'ai arrêté de travailler.
Oh, t'as travaillé à la maison, quoi ?
À l'extérieur, j'ai arrêté de travailler à l'extérieur. C'est pas... Bon, moi j'ai bien aimé être à la maison avec mes quatre filles. Voilà, c'était quatre beaux projets aussi, hein. C'était pas des projets... rémunérateur, j'avais pas ma feuille de paye, mais voilà.
Et une fois, tu m'avais dit que tu préférais bosser pour ta famille que bosser pour un patron.
Ben oui, c'est là on revient au truc de base, la motivation. Moi, pour le travail, voilà, c'est que intuitivement, je me faisais pas trop d'illusions sur le fait de passer 10-12 heures dehors pour ramener un salaire. Mais je me rendais bien compte que, voilà, les employeurs, bien souvent, ils m'utilisaient, ils me jetaient, voilà. En plus, en intérim, c'était tout à fait ça. Hein. Donc voilà.
C'est vrai que nous, au moins, on sera toujours reconnaissantes.
Mais j'espère. Je sais pas.
Alors qu'il n'est pas...
Après, moi, ma mère, elle s'est occupée de moi. Est-ce que je suis reconnaissante ? C'est pas moi qui m'occupe d'elle. Hein. Même au jour d'aujourd'hui, c'est ma petite sœur qui a peut-être moins profité de mes parents. Oui, puisque bon, elle, quand elle est née, ses parents étaient déjà un peu vieillissants, on va dire.
Ouais.
Et donc c'est elle qui s'est occupée de mon père jusqu'à sa mort, et c'est encore qui s'occupe de ma mère. Hein, donc
ouais.
C'est pas d'une logique. Si ça se trouve comme ça, si... Ben avec les instituts, ça se passait bien parce qu'ils étaient contents d'avoir des élèves très gentils qui faisaient leurs devoirs. Ils étaient... Voilà, avec une maman qui suivait les trucs, qui s'investissait quand même un peu à l'école, etc. Les autres parents d'élèves toujours prêts à profiter quand même de ah bah oui toi t'es à la maison donc en gros tu peux emmener les enfants à la gym, tu peux emmener voilà, mais bon pas trop mal vécu quand même,
ouais.
Pas traumatisé au plus fort degré. Parce que je me rends bien compte que ces femmes-là qui profitent un petit peu de moi et tout, bon ben bah, elles-mêmes, elles étaient dans des situations pas évidentes, quoi. C'était un peu boulot, enfant, ménage, truc, machin. Mmh. Voilà. Donc, je leur en veux pas à mort, hein. Tes ambitions personnelles, elles sont souvent bousculées par ce quotidien qui est quand même bien prenant, quoi. Quand t'as tes gamins, tu dois leur faire à manger, les laver, s'occuper de la maison, etc. Et donc du coup, maintenant je me sens un peu déconnectée. C'est vrai que bon, moi je suis pas une folle des nouvelles technologies, tout ça, ça me saoule vite, mais c'est une connerie que je devrais vraiment m'y mettre. Mais tu vois, un truc tout bête, maintenant il commence à faire beau, je me mets à gratter dans le jardin. Bah voilà, je pourrais faire ça pendant plusieurs heures, même si après, maintenant, j'ai eu mal partout. Ben voilà, s'il faut que je fasse en plus internet, machin, ça me saoule. Mais déjà, je trouve que je regarde bien assez la télé.
Ouais.
Donc j'ai ma dose d'écran, quoi. Global. Et c'est vrai que plus j'avance en âge, plus je me sens déconnectée. Là, tout à l'heure, on parlait des bureaux SNCF, voilà, moi j'aime pas trop m'adresser à des machines, quoi. Donc, ouais. C'est vrai que, mais en même temps, il faut savoir s'en servir des machines, hein. Parce que là, maintenant, il va plus y avoir de solution, hein. D'ailleurs, je pense, moi, je côtoie des gens qui ont 80 balais, qui sont vraiment pas branchés internet et tout, ça devient très compliqué pour eux.
Ouais. Toi, tu tapes quand même super vite à l'ordinateur. Hein.
Oui, non, mais j'ai tapé, j'ai appris. C'était du conditionnement. Hein. On faisait top, on avait un écran avec les lettres, il y avait une couleur par doigt, c'est du bourrage de crâne.
Ouais.
Mais après, c'est impeccable. Tu réfléchis pas, tu tapes.
Ouais. Moi, je tape pas du tout aussi vite que toi.
Hein. Mais tu tapes avec deux doigts.
Ouais.
Ouais, tandis que moi, je tape avec tous mes doigts.
Peut-être quatre.
Ouais, ça. Mais des deux mains.
Ouais. Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios. Vous écoutez Lilith, Martine et les autres. Aujourd'hui, c'est le dernier volet de notre trilogie Les Mouflets. Et c'est une émission sur les mères au foyer. Donc, merci à ma maman d'avoir accepté l'interview, parce que c'est pas toujours facile de se faire interviewer, surtout par sa fille. Et à la fin de cette interview, que dire un petit peu de ce qu'elle m'a dit aussi après hors micro, parce qu'elle me disait « Ah, coupe le micro !» Elle m'a dit aussi que, par exemple, quand elle travaillait, c'était en fait hyper chiant, quoi, la vie d'une femme qui travaille. Et bon, elle avait deux enfants à l'époque, mais ça veut dire que tu te lèves à 6h du matin pour poser tes enfants chez la nounou avant de partir au travail. En plus, nous, on avait des nounous qui étaient pas vraiment sympas, donc on n'était pas hyper contentes. Enfin voilà. Après, le soir, ça la faisait chier, elle était fatiguée. Elle avait qu'une envie, c'est aller se coucher, il fallait s'occuper de nous, c'était plus une corvée qu'un plaisir et tout. Donc là-dessus, elle dit que c'est cool, quoi, quand même, d'avoir du temps pour s'occuper de ses enfants et de sa maison, parce que ça demande quand même de l'énergie, tout ça. Pardon. Et en même temps, même si elle dit que elle a bien apprécié tout ça, ce qu'on entend aussi dans le reportage un petit peu, c'est que maintenant, elle se sent plus tellement en phase avec... avec la société, qu'elle a un peu essayé de reprendre une activité professionnelle et ça n'a pas tellement marché. Et c'est vrai que le regard des gens sur elle, il n'est pas toujours très valorisant. Et du coup, elle me dit de ne pas faire comme elle et d'essayer d'arriver à garder une activité professionnelle si un jour je veux construire une famille, quoi. Donc voilà.
Et ton regard à toi quand tu étais enfant ou adolescente plutôt, parce que c'est l'âge où on se questionne sur ce qu'on va faire et les modèles qui nous ont un peu marqués dans notre vie.
Je pense que vu que le modèle dominant en ce moment, enfin comme on disait en fait, moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu une époque où rester au foyer c'était plutôt un truc de bourgeoise, Madame Bovary, tu mets ton enfant en nourrice pour je sais pas aller à des dîners et tout ça. Maintenant, c'est plus du tout le cas et on voit, enfin, dans les statistiques, en fait, être femme au foyer, c'est plutôt quelque chose de pas très valorisé, pas très valorisant, que ce qui est valorisé, c'est plutôt de travailler, d'avoir une carrière pour les femmes y compris. Et c'est vrai que moi, du coup, je comprenais pas pourquoi ma mère, elle avait fait ces choix-là. Je trouvais que c'était pas terrible. Je me souviens pas exactement de gens qui m'ont dit « Oh là là, trop nul, ta mère, elle est femme au foyer. » Mais en tout cas, moi, il y a des moments où je pouvais le ressentir un petit peu comme ça, même si... Bah, au fond, en fait, j'étais bien contente, même adolescente, d'avoir une maman qui était quand même disponible. Mais bon, c'est vrai que moi, je pense qu'il y a des moments, j'ai été un peu dure avec ma mère par rapport au regard qu'on peut porter dans la société sur les femmes au foyer à l'heure actuelle, quoi.
Et aussi, mais aussi, ce qui est ambigu, elle le dit aussi un peu, ta maman, c'est que maintenant que nous, on travaille, on se rend aussi compte que travailler pour un patron, il y a quand même beaucoup de patrons, parfois, c'est pas non plus le pied, quoi. Ouais. Et que finalement, elle dit, elle travaillait en fait pour vous. Donc, c'est autre chose aussi, c'est une autre démarche, quoi.
Bah, c'est sûr que d'un côté, ça t'amène de la satisfaction, mais bon, encore une fois... Ouais, c'est pas forcément valorisant. Puis tu vois, maintenant, bah, elle a 57 ans, bah, elle a pas d'adresse mail. Par exemple, ma mère, elle a jamais écrit de mail, tu vois.
Ouais, bon, en même temps, mon père, tu sais, il a travaillé, il a pas d'adresse mail. Non,
ouais,
plus.
Ouais. Non, mais c'est ça, après, c'est des trucs.
Ouais.
Mais c'est vrai que, bon, je pense que, voilà, elle a pas de regrets, mais voilà, moi, elle m'encourage pas à faire ça et tout ça, quoi.
T'avais une autre question? Oui, j'ai peut-être une dernière question, parce que j'avais lu une petite statistique que tu n'as pas dit tout à l'heure. J'avais lu que, selon des études, les femmes au foyer disposent en moyenne de 10% de temps personnel de plus que les femmes qui travaillent. Donc ça fait, finalement, ça ne fait pas beaucoup de temps en plus. Parce que souvent, on a aussi cette vision de la femme au foyer qui, du coup, a plus de temps pour elle. Est-ce que ça, toi, tu l'as remarqué avec ta maman? Est-ce qu'elle s'accordait un vrai temps de pause, sans vous, par exemple? Ou pour ses loisirs personnels?
Bah, pas tellement. Enfin, après, elle par exemple, elle a toujours bien aimé faire de l'aquarelle, ma mère, depuis qu'elle est petite, quoi. Et du coup, bah, ça, c'est vrai que c'est un truc qu'elle a gardé, quoi. Et en plus, elle fait des trucs jolis, je trouve. Mais, ouais. Après, je pense que c'est plutôt dans ce qu'on disait, et ce que j'ai vu aussi sur Internet, c'est qu'il y avait des femmes, elles disaient qu'elles n'avaient pas aimé rester au foyer et arrêter leur activité professionnelle parce qu'elles ne gagnaient pas d'argent. Et que du coup, en fait, elles culpabilisaient de dépenser l'argent du foyer pour s'acheter des vêtements ou pour...
un loisir personnel.
Voilà. Ouais. Et bah ma mère, c'est vrai que moi j'ai bien vu que par exemple, quand j'ai des souvenirs d'elle quand j'étais petite où elle faisait attention à elle et tout, et que après bah elle a complètement arrêté. Donc après voilà, enfin c'est pas non plus un but dans la vie d'être maquillée pomponnée, mais quand même, enfin c'est vrai qu'elle prenait pas beaucoup soin d'elle en fait. Je pense que ça crée aussi un truc peut-être. Quand t'es comme ça, dédié à l'éducation de tes enfants, de ta maison, machin, bah, tu t'oublies un petit peu. Je pense que ça va vite. Et je pense que ça, c'est un peu un problème.
Sans transition.
Il y a quand même...
Non, il y a un lien.
Il y a un lien,
c'est vrai. Il y a un lien, je vais vous expliquer. On va vous passer le trailer du film américain Bad Moms, qui est sorti en août 2016. Du coup, on n'en a pas trop entendu parler, mais c'est normal, hein, c'est pas le film de l'année.
Télérama a détesté.
Voilà, c'est pas le film pour Télérama. Mais nous, quand même, ça nous a fait un petit peu rire quand on a vu la bande-annonce.
La bande-annonce, elle est rigolote et c'est des mamans qui se rebellent.
C'est ça, c'est des mamans qui craquent. Du coup, c'était quand même un peu dans le thème de cette émission. Alors, vite fait, pour vous expliquer, c'est la vie de... Ami qui a en apparence une vie un peu cool, genre un mariage heureux, des enfants, une carrière, tout ça.
Une belle maison.
Et en fait, elle. Oui, c'est vrai, elle a un chien.
C'est vrai.
Et ouais, elle a même un chien. Et en fait, elle est un peu. Tellement elle se met la pression pour être au top partout, elle est un peu sur le point de craquer. Et du coup, elle va se trouver comme alliée deux autres mères épuisées, elles aussi, par le stress imposé par la vie de famille, s'occuper des enfants, de la maison, être aussi des parfaites parents d'élèves. Parce que c'était aussi, Bernadette, elle nous le disait dans l'interview, quand t'es mère au foyer, t'as aussi vachement la pression à l'école, parce que toi, t'aurais le temps et tout ça, t'es occupée.
De suivre les devoirs.
Du coup, elles ont un peu la pression de tout ça. Et puis dans ce film, il y a à l'inverse la toute puissante présidente des parents d'élèves qui s'appelle Gwendoline et qui, elle, veut imposer ses règles à tout le monde. Du coup, ces trois mamans là, fatiguées mais unies, elles se lancent dans une folle virée en quête de fun, de détente et loin de leurs responsabilités conventionnelles de mère de famille. Voilà, on écoute la bande-annonce.
Regardez, c'est la mère bizarre qui sort pas de chez elle.
Mais comment est-ce qu'elle s'habille?
Hé, les filles, Mathia a passé la nuit à me vomir dessus. Tout va bien, même si j'ai pas beaucoup dormi.
Quel malheur, sa tristesse va déteindre sur moi.
Et voici Amy.
Tu arrives à abandonner tes enfants pour aller travailler?
Oui, c'est dur, mais j'ai aussi besoin de choses comme un peu de pognon.
Eh oui, à tout à l'heure.
Oh, elle travaille tellement, ça m'épate.
Cette fille travaille tellement.
Oui, c'est ce que je viens de dire, Vicky.
J'ai 4 minutes pour déposer Roscoe chez le veto. Ça devrait aller.
C'est grave à la bourre pour la réunion marketing.
Je le crois pas, je vais être en retard à mon premier entraînement de foot de l'année.
C'est une mauvaise journée.
Il peut rien m'arriver de pire.
Bon, j'ai organisé cette réunion d'extrême urgence pour éradiquer définitivement ce fléau qui affecte la santé de nos enfants.
Le terrorisme. La vente de gâteaux.
Non, c'est une blague.
Qu'est-ce que j'entends?
Je suis désolée, j'en ai marre.
À notre époque, c'est impossible d'être une mère parfaite.
Soyons des mères indignes.
Ah, ça me branche.
Aux mères indignes. Tout.
Amy, salut.
J'appelais pour savoir si tu voulais te faire un ciné avec moi aujourd'hui.
Pourquoi on a le droit de faire ça?
C'est littéralement la meilleure journée de ma vie depuis que je suis née.
Bonne journée, mes amours.
Salut, Amy, on a une petite réunion de parents d'élèves, on t'y verra?
Non.
Je dirige cette école, alors personne ne va en classe ou se met à jouer de la clarinette sans que je donne mon accord.
Cette fille est un despote. Il faut qu'on déglingue les mères parfaites.
Je dis qu'il faut qu'on frappe cette bâtarde en plein dans les nibards.
Ouais.
C'est la meilleure réunion de parents d'élèves.
J'ai connu qu'un seul pénis depuis que je suis sur le marché. Et si je tombe sur quelqu'un qui est pas circoncis?
Je vais te montrer. Là, c'est le bout du pénis. Tu vois, tu mets le tout en arrière et tu fais un aller-retour.
Mais qu'est-ce que je fais de ça?
Dis-toi que c'est un immense clito masculin. T'as qu'à sucer, tu vois, tu colles ta bouche en plein dessus et après... Chut.
Je vais plus jamais porter ce gilet, les filles.
Oh, oh putain! Mais tu l'as piqué à ta mère?
Ça, c'est mon soutif hyper sexy.
C'est un mononiche.
Il est pare-balles?
C'est carrément pare-bite.
C'est si moche, mais c'est très confortable.
Vous êtes sur Radio Canu, vous venez d'entendre la bande-annonce de Bad Moms, ça parle nichon et cheesecake, et nous parlons des femmes au foyer. En préparant l'émission, on s'est vraiment posé plusieurs questions. En fait, le débat a un peu dérivé, puisque ça pose des questions du travail en général. Et les frontières de ce travail, justement, comment on les définit? Donc souvent, ils sont définis par la société, évidemment, les politiques, on disait tout à l'heure, et par d'autres paramètres, mais en tout cas, c'est pas toujours évident. Et le travail domestique, par exemple, qui n'est pas rémunéré, il pose aussi cette question-là. Comment on donne une valeur à ce travail, en fait, pour pas, comme on a dit tout à l'heure, dénigrer les personnes qui restent, qui décident, qui font le vrai choix de rester au foyer. Toi, t'as lu des ouvrages intéressants?
Bah, j'ai pas lu des ouvrages, mais c'était sur. Enfin, c'est en lien avec ce que tu dis du travail non rémunéré. Parce que dans les années 70, de 72 à 77, il y a pas mal de féministes qui sont emparées de la question et de ça. Et du coup, il y a un peu une campagne internationale pour le salaire, pour le travail ménager, qui a été lancée un peu à l'issue de la publication d'un ouvrage de Maria Rosa Dalla Costa et de Selma James en 72 qui s'appelle « Le pouvoir des femmes et la subversion sociale ». Du coup, il y a peu de traces sur l'histoire de ce mouvement, mais il y a ces ouvrages-là que je pense qu'on peut trouver. Donc moi, je ne les ai pas lus, mais du coup, je pense qu'ils se trouvent. Et du coup, il y a eu quelques mobilisations, quelques actions là pendant de 72 à 77. Et c'est Selma James, donc dans ce bouquin, qui forge l'idée de travail non rémunéré pour désigner le travail domestique effectué du coup quasiment exclusivement par des femmes. Et puis notamment aussi autour des activités de care. On en avait parlé peut-être sur la première émission, je crois. Ouais, c'est une notion anglaise à la base qui désigne tous les types de travaux non salariés justement effectués alors par les femmes, les enfants, les hommes, mais du coup majoritairement par les femmes, que ce soit à la maison ou pour la communauté, s'occuper des autres, le prendre soin et tout ça. Voilà, et donc du coup elle dit que le travail non salarié il est pas mesuré puisque tant qu'un travail, il n'est pas payé à l'heure, il n'est effectivement pas reconnu, pas quantifiable, et tout le monde se moque bien de savoir qui fait ces travaux-là, de toute façon, on ne les voit pas, quoi.
Voilà, du c'est, coup, ce qu'on dit, sont... c'est ce qu'on appelle le travail invisible.
Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Et donc, elle propose l'idée d'un salaire pour les femmes au foyer, pour les personnes qui font du coup le travail ménager, le travail domestique. L'un de leurs objectifs, c'est aussi pour qu'un salaire soit attribué aux travaux domestiques, c'est aussi du coup d'obtenir un peu une équité de salaire, que les femmes qui font ces travaux-là puissent être payées. Et du coup, c'est aussi pour l'idée de pouvoir refuser des petits boulots, des boulots un peu mal considérés, mal payés. Et puisque souvent les moins bien payés, en plus, c'est les femmes, et c'est notamment les femmes qui ont des enfants, parce que qui ont des emplois du temps un petit peu à aménager et tout ça. Du coup, c'était aussi qu'il y ait une équité de salaire entre les hommes et les femmes. Et puis après ça, en 75, il y a une autre féministe, Silvia Federici, qui écrit Le foyer de l'insurrection, un texte aussi qui reprend un peu ça. Et le collectif féministe L'Insoumise à Genève, il a édité un livre collectif qui rassemble des textes autour de ces initiatives-là. Et qui reprend un peu toutes les luttes importantes en Italie, en France, en Angleterre, etc. Et cette lutte-là, elle s'appelle aussi... Alors là, c'est dans la campagne internationale pour le salaire, pour le travail ménager, mais en 75, notamment dans le foyer de l'insurrection, il parle aussi de salaire contre le travail ménager, avec une idée d'être contre le travail. Du coup, un truc.
Attends, tu veux dire qu'ils seraient contre le salaire ?
Bah non, ils sont pour le salaire. En fait, c'est qu'ils disent il y a un rapport entre le rôle féminin et le travail ménager. Donc, par conséquent, en fait, le rapport entre la destruction du travail ménager et la destruction du peut amener la destruction du rôle féminin. Et que pour eux, ça peut passer par avoir un salaire pour ce travail, en fait.
D'accord.
Avoir un salaire pour ce travail, ça veut dire reconnaître que c'est un travail, que c'est pas juste un rôle féminin, du coup.
Oui,
donc,
oui.
Lutter contre le rôle féminin, ça va ensemble, quoi. Donc, ça complexifie un peu
l'idée, quoi.
L'idée, ouais. Voilà. Et donc, ouais, c'était ça que j'avais trouvé sur ces deux bouquins-là qui traitent un peu de ça.
Ouais, un peu dans cette pensée de Silvia Federici et un peu autour de la pensée anti-industrielle. Mmh. T'as Ivan Illich aussi, donc c'est un mec. Et lui, en fait, ce qu'il dit, mais je pense que c'est repris aussi par d'autres, c'est qu'en fait, le capitalisme industriel, il s'est justement basé là-dessus, en fait, sur... le travail fantôme des femmes, en fait, en rendant tout un tas de tâches invisibles. Donc, en fait, par exemple, avant l'ère industrielle et donc le salariat et tout ça, en fait, par exemple, si tu prends dans une ferme, t'avais plein d'ouvriers et d'ouvrières agricoles. Et donc, chacun avait ses tâches qui étaient genrées, parce que les hommes, ils s'occupaient pas des mêmes choses que les femmes, et les hommes, ils étaient plus payés que les femmes. Mais les femmes, on se disait pas, ah bah, elles travaillent pas. En fait, les femmes, je sais pas, elles triaient les chèvres.
Elles avaient leur tâche.
Elles faisaient le fromage, elles faisaient la lessive, les trucs comme ça. Et en fait, en plus, vu que c'était une époque où il y avait quand même besoin de beaucoup de monde pour travailler au champ, parce qu'il n'y avait pas de mécanique et tout ça, et bah, forcément, en fait, c'est un moment où bah, tout le monde travaillait. Et même si les femmes s'occupaient plus des enfants, s'occupaient plus de ci et ça, en fait, on ne se disait pas « Ah bah, elles ne travaillent pas ». Et c'est ce qu'on avait vu là une fois dans une émission. En fait, dans les premiers recensements sous Napoléon, et bah, la population recensée dans l'agriculture, il y a autant d'hommes que de femmes qui travaillent dans l'agriculture. Et pareil pour l'industrie. À l'époque, il y avait autant d'hommes que de femmes qui travaillaient dans l'industrie. Et par contre, c'était dans les postes d'élite, les premiers ingénieurs et tout, bah c'était évidemment que des hommes. Et moi, je sais que c'est un truc qui m'agace un petit peu, en fait, quand des fois tu regardes certains ouvrages féministes qui vont vachement appuyer sur la première femme ingénieure, la première femme machin. Et moi, je trouve que c'est à Radio Lilith et dans plein de mouvements féministes un peu jeunes, on va dire, on n'a pas du tout ce regard-là, qu'on va vachement plus se dire, bah oui, mais en fait... Enfin, il y a pas que ces femmes-là, quoi. Il y a pas que l'élite féministe. Même si c'est très bien, en fait, qu'il y a des femmes qui deviennent ingénieures et tout. Moi, j'ai rien contre. Mais c'est vrai que faudrait pas que ça invisibilise toutes les femmes qui ont travaillé depuis super longtemps et que non, les femmes, elles se sont pas mise à travailler en 70, quoi.
Oui, c'est exactement ça. Oui. Invisibiliser certains travails, c'est aussi ne regarder que le travail, comme tu dis, d'élite, oui, qui est valorisé dans notre société, c'est-à-dire le travail intellectuel. Donc, je sais pas, les avocates, médecins, professeurs, et oublier qu'il y a d'autres, il y a les artisans, il y a les agriculteurs, et en fait, c'est une manière aussi de dévaloriser ces travaux-là, puisqu'on n'en parle pas. Donc, ils deviennent invisibles, exactement, c'est ça. Donc, c'est bien de le redire, effectivement.
Mais c'est vrai que dans le système économique actuel, moi, ça m'étonne pas, par exemple, que les projets de payer les femmes au foyer, ça marche pas, parce qu'en fait le capitalisme, c'est justement, c'est pas le projet, en fait, c'est l'argent et tout, il peut pas circuler comme ça, en fait, parce qu'en fait c'est quelque chose de gratuit qui produit plein de choses et que ça profite à plein de gens.
C'est pas productif dans le sens capitaliste, ouais, quoi. Mais comme plein d'autres boulots qui sont très peu payés, en fait, hein, qui sont parfois payés, mais en fait tellement peu que du coup... c'est ça.
Mais elle en parle, il y a un autre... Je pense que c'est un peu dans la veine de ce que tu disais sur Ivan Illich. Federici, elle a écrit un autre bouquin plus tard qui s'appelle Caliban et la sorcière, et où elle reprend un peu... Enfin, elle parle de cette idée-là aussi, où elle dit le capitalisme, il exploite pas seulement la force de travail quand elle est à l'usine ou sur un lieu de travail ou tout ça, mais c'est... il exploite aussi une part du travail non payé, et du coup du travail domestique, et qui est principalement assuré en plus du coup par les femmes, et que le capitalisme, il y trouve aussi un profit à pas payer ce travail-là, à ce qu'il soit fait, à ce que...
Oui, finalement c'est ça, quoi. Un autre type de profit.
C'est là aussi des fois où on se demande, c'est quoi en fait finalement un féminisme peut-être un peu révolutionnaire
ou nouveau,
dans la société, c'est est-ce que en fait on veut être aussi bien que les hommes, ou est-ce que on veut créer autre chose le but, ce serait pas forcément que comme les hommes, les femmes ont le droit d'être super riches ou je sais pas quoi, mais c'est genre que peut-être tout le monde puisse travailler et s'occuper de sa maison et de sa famille, et que tout le monde puisse aussi s'occuper des affaires politiques, techniques, des choix.
En fait, oui, repenser le rôle plus de la femme dans la société, c'est aussi repenser le rôle de l'homme dans la société, quoi. Et justement, si je rebondis là-dessus, j'ai tapé sur Internet quand même père au foyer, parce que je me suis dit, mais bon, quand même, on dit toujours femme au foyer,
il doit y en avoir.
Et ce qui est marrant, c'est qu'on tombe sur des articles de journaux. Enfin, je suis tombée sur plusieurs articles vraiment en tête des recherches qui disent, père au foyer, un métier comme les autres, père au foyer, une profession.
Ouais.
Et je suis aussi tombée sur un mémoire universitaire d'une fille qui dit un truc assez bien, parce qu'elle fait la même remarque dans son mémoire. Elle dit, la plupart des titres des articles journalistiques portant sur les pères au foyer se présentent sous la forme de variations autour de la formule profession père au foyer. Ce rattachement de la paternité au foyer à une profession est symptomatique de la difficulté à penser une identité masculine hors travail, tant le rôle de pourvoyeur de ressources de la famille qu'aurait le père reste ancré dans les représentations. Voilà, ça, c'est une citation de Myriam Chateau. Voilà, et c'est cette idée encore de repenser notre identité, c'est aussi repenser l'identité des autres, de l'autre, l'homme.
Bah oui. Et donc un peu dans la même veine, j'ai été chercher en fait les chiffres sur le congé parental.
Ah oui, petit point congé parental.
Donc parce que quand on est salarié, on peut demander un congé parental d'éducation dès le premier enfant. Donc c'est quelque chose que l'employeur ne peut pas refuser.
Ah, il peut pas refuser en fait.
Non.
Ok.
Et en fait, le poste de la personne doit être conservé. Donc ça veut dire qu'on prend un congé parental et ensuite, en rentrant, on retrouve son travail. Donc c'est plutôt pas mal. En plus, c'est renouvelable et ça peut durer jusqu'à 3 ans.
Parce que, quand tu demandes un congé parental, c'est 1 an.
C'est 6 mois.
Six mois.
Okay. 6 mois que tu peux renouveler plusieurs fois. Le congé parental, ça peut être soit cesser complètement son activité professionnelle, soit se mettre à temps partiel. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que la CAF, elle offre entre 150 et 400 euros selon, est-ce qu'on s'arrête de travailler complètement ou pas.
En complémentaire, quoi.
Voilà. Tout ça. Parce qu'en fait, eux, la CAF, forcément, vu que si tu mets tes enfants, par exemple, à la crèche ou quoi, en fait, eux, ils vont t'aider, ils vont financer les crèches, bah, eux, d'un côté, ça leur fait faire un peu des économies que si toi, tu t'occupes toi-même de tes gosses. Quoi.
C'est-à-dire que du coup, ils financent, ils financent pas la crèche, ils te financent toi.
Ouais. Ouais. Donc, c'est plutôt pas mal comme idée, je trouve. Sauf que, bah, évidemment, bah, qui sait qui prenait des congés parentaux, bah 96% de femmes et 4% d'hommes. Et donc, en plus, donc, si tu, par exemple, fais plusieurs enfants à 3 ans d'affilée, vu que le congé parental il peut durer jusqu'à 3 ans, bah, en fait, tu peux facilement t'arrêter de travailler pendant des années et des années. Mmh. Et ensuite, et bah, donc, vu que c'était les femmes qui prenaient les congés parentaux, c'est pas forcément évident de retourner dans ton entreprise ou dans ton établissement, quoi.
9 ans après.
Ouais. 9 ans après.
Hey, salut. Ah putain, on est passé à Windows 17.
Donc, et donc évidemment, les évolutions de carrière je sais pas, prendre des responsabilités et être une super professionnelle en t'arrêtant comme ça, c'est pas non plus évident. Donc, en 2014, le gouvernement a pondu une loi, la loi du 4 août. 2014, abolition des privilèges, qui est pour inciter les hommes en fait à prendre des congés parentaux. Et donc, en fait,
en plus des sous, on leur donnait à manger.
Non, en fait, c'est plutôt que bah il y a si c'est la même personne qui prend tous les congés parentaux, la CAF en fait cesse l'indemnisation.
Ah, donc il faut qu'il faut alterner les deux parents. Faut alterner.
Ouais. Okay. Donc en fait, tu peux renouveler. Après, ça dépend le nombre d'enfants et tout. En gros, par exemple, si tu as un enfant, tu peux prendre chacun 6 mois.
D'accord.
Et voilà. Et après, à partir de plusieurs enfants, tu peux prendre. En fait, tu peux toujours prendre tes 3 ans de congé parental, mais la CAF, par exemple, te paiera plus que 2 ans si tu as 3 enfants.
Sauf si tu alternes.
Sauf si tu alternes, okay. Là, voilà. Ça marche.
D'accord. Donc, ça, c'est tout récent, c'est 2010.
Ouais, 2014.
Ah, 2014, pardon. Okay.
Voilà, donc je ne sais pas s'ils ont déjà je crois pas qu'ils ont déjà les stats, mais je pense que ça va bientôt sortir. Donc à voir, c'est vrai que ça peut être pas mal, je pense, si ça alterne un petit peu, quoi. Oui. On s'écoute.
Ouais, je vais. On va. Attends, j'avais préparé. Ah. Bon. Non, mais j'ai interrogé une amie qui s'appelle Marie, mais elle se présente dans l'entretien et du coup c'est juste un modèle un peu un autre modèle, elles sont deux, elles sont mariées, elles ont une petite fille et elles ont décidé, bah, justement je crois qu'il y en a une qui est en congé parental ou enfin, elles ont décidé d'aménager leur temps de travail et de travailler moins pour être au foyer et pour s'occuper de leur fille plutôt que de choisir d'autres modes de garde ou autre, mais du coup elle l'explique, c'est un témoignage quoi.
C'est des sortes de mères au foyer un peu à temps partiel.
C'est complètement ça, ouais.
C'est la modernité, c'est ça. 2017.
C'est les couples modernes. Lilith, Martine et les autres.
Je m'appelle Marie, j'ai 38 ans, j'habite dans le Vieux-Lyon.
Entretien.
Je vis avec Florence et Colline. Donc Florence est ma compagne depuis 11 ans. Nous sommes mariés depuis 1 an et demi, un peu avant la naissance de Colline, donc il y a 18 mois, et dont nous nous occupons donc toutes les deux, toute la semaine. Voilà, moi 2 jours par semaine, Florence le reste du temps, et toutes les deux le week-end. Alors Florence, de son côté, a toujours bien aimé son travail, mais disons que ça n'a pas non plus été le centre de son monde. Et elle trouvait que ben, le fait d'avoir un enfant, c'était aussi l'occasion de profiter de ce que la vie peut apporter d'autre que le travail. Donc après avoir pris un congé parental de 6 mois, elle est maintenant à 40%, donc elle bosse 2 jours par semaine, et donc c'est un congé parental partiel. Donc c'est 2 jours par semaine, c'est moi qui m'occupe de Colline. Et le reste du temps, je travaille voilà, à mon compte, voilà, en tant que graphiste. Alors je travaille chez moi ou bien à mon atelier. Donc c'est un endroit de travail partagé. Donc ce qui me permet d'avoir un lieu au calme pour pouvoir bosser tranquille. Parce que c'est pas facile de travailler chez soi avec un enfant. Et voilà, puis ça me fait aussi l'occasion de sortir de chez moi et de voir des gens. Je vais forcément à l'atelier, mais comme je suis pas non plus une travailleuse acharnée, ça peut m'arriver d'y aller à partir de, je sais pas, 10-11 heures. Ça fait que le matin, je suis avec elle aussi. Et après, je reste un peu tard à mon atelier pour travailler. Et après, si j'ai beaucoup de boulot, si c'est une période où j'ai beaucoup de boulot, et je peux travailler chez moi le soir, une fois que tout le monde est couché, ou le week-end. Enfin, après, moi, j'ai un travail à qui... où on choisit ses horaires, on n'a pas d'horaire vraiment fixe. Donc après, j'adapte en fonction de notre activité familiale. J'adapte mon temps de travail et quand je veux travailler ou pas. On aimerait trouver une solution de garde pour le cas où je trouve un CDI. Voilà. Et même si je veux développer mon activité en freelance, c'est vrai que mes 2 jours par semaine, mine de rien, qui sont bloqués pour la garde de Colline, ça m'arrête quand même dans mes activités, puis ne serait-ce que répondre aux mails quand il faut, être un peu réactive comme les clients le souhaitent. C'est pas toujours facile quand on est chez soi avec un enfant à garder. La nounou, disons que par rapport à nos moyens financiers, ça serait un peu compliqué, je pense. Et puis en plus, le choix quand même à l'origine, c'était de nous occuper de Colline. Donc la nounou, non, on n'y a pas trop pensé. Et puis surtout, la nounou, c'était peut-être moins intéressant que la crèche pour Colline. Parce que ce qui nous manque un peu pour elle, c'est le fait de fréquenter d'autres enfants. Et ça peut être un peu l'argument qui fait qu'on aimerait quand même bien avoir une place en crèche. Et là, il se trouve qu'en fait, on n'a pas eu de place. C'était un choix, d'une part, parce que nos boulots nous le permettaient, et surtout parce que avoir un enfant pour nous, c'est quand même s'en occuper le plus possible, et surtout quand il est petit. Donc c'était un choix un peu les deux, un peu le travail, un peu les envies personnelles. Et après, on a aussi pris en compte les prédispositions de chacune. Parce qu'elle, était peut-être plus motivée par l'idée d'être mère au foyer, on va dire, que moi au début. Et après, c'est surtout un choix financier, parce que du coup, à toutes les deux, comme moi, ma situation professionnelle n'est pas non plus mirobolante, et que Florence travaille à 40%, donc on se retrouve en gros avec ce qu'on pourrait considérer comme un salaire pour deux, donc pour trois maintenant. Mais on s'en sort bien, surtout que les frais principaux finalement c'est la garde. Donc quand on n'a pas ça, au final on s'en sort très bien et on est contente. Et c'est un peu la fête à la maison, tout le temps.
Et voilà, il est 17h48, vous êtes toujours sur Lilith Martin et les autres. On vient d'entendre Marie, donc, qui nous raconte comment elles ont un peu décidé de travailler un peu moins, d'aménager son temps de travail et le temps de travail de sa compagne aussi pour s'occuper de leur petite fille. Du coup, donc elles sont au foyer, les deux, un peu en alternance, ce qu'on disait avant, avec du coup ce que ça génère dans la baisse de salaire et tout ça. Enfin, voilà, ce qu'elle nous dit. Donc, cette émission touche presque à sa fin. On espère que vous avez passé un bon moment, que nos réflexions vous ont intéressé. C'était effectivement pour nous l'occasion de revenir là dans cette émission sur ce terme femme au foyer, sur son sens, sur le regard social qui est porté sur les femmes qui décident ou pas de rester au foyer, et puis préciser aussi un petit peu quelles sont leurs réalités, leurs motivations, la part de choix et les raisons diverses qui mènent à ces choix. Et puis c'était aussi l'occasion d'aborder la place du travail dans notre société, du travail invisibilisé, donc du travail domestique, etc. Voilà, ce qui est reconnu ou pas, en fait, un peu comme travail aujourd'hui dans notre société. Voilà, et puis du coup, c'est la fin de cette émission, mais aussi de la trilogie des mouflés, des mouflettes. Il y a eu 2 autres émissions avant, la première sur les crèches, la deuxième sur les filles au père, et puis vous pourrez retrouver du coup ces 3 émissions sur le blog Lilith, Martine et les autres.
Pour préparer cette émission, on a utilisé plusieurs sources, dont un article de John Krisky, Maud Simonet et Maud Simonet, qui s'appelle « Invisibilisation du travail aujourd'hui » et qui a été publié dans Société Contemporaine. Également un article de Travail-Emploi Revue, vous tapez « Les femmes au foyer » et vous trouvez facilement, et des chiffres de l'INSEE pour faire un peu sérieux. Et un petit point actualité, parce que mardi, c'est le 8 mars quand même.
Et oui, il se passe pas mal de choses.
Il se passe pas mal de choses
à Lyon.
On écoute Gillo.
Bah oui, bien sûr. Ça sera une très bonne, un très bon lancement pour ton point actu.
Taken for granted, ignored, overlooked, underappreciated. We have a big, big problem, ladies. First, you've got to get mad. I want you to get up. Get up out of your chair. Go to the window. Open your door. Stick your head out and yell.
I ain't gonna be cooking all day, I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry, I ain't your mama. I ain't your mama, boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together, I ain't your mama. No, I ain't your mama, no. I ain't your mama, no. Wake up, arise and shine. Oh yeah, yeah, yeah. Get to work on time. Oh yeah, yeah, yeah. No more playing video games. Oh yeah, yeah, yeah. Things are about to change. Round here, round here.
Journée internationale pour les droits des femmes. Pour ce 8 mars 2017, la ville de Lyon a décidé d'honorer des femmes remarquables, des femmes qui ont contribué à l'histoire de l'humanité par leurs découvertes scientifiques, leur participation à la vie politique, économique et sociale, leur créativité artistique et leur engagement pour la liberté et l'égalité, notamment avec Marie Curie, Simone de Beauvoir et Lucie Aubrac. Durant tout le mois de mars, une trentaine d'événements allant des conférences gesticulées aux projections, débats, lectures, rencontres et même aux promenades guidées des rues portant les noms de femmes vont avoir lieu un peu partout dans Lyon. Dès le mercredi 8 mars à 19h, vous pourrez donc par exemple assister à une lecture-spectacle de la compagnie TEF, association pour un théâtre féministe, à la bibliothèque municipale Saint-Jean, ou encore aller voir King Kong Theory de Virginie Despentes, joué par la compagnie Alternatif à la salle Paul Garcin à 20h. Donc je vous invite vraiment à aller sur le site de lyon.fr pour y trouver tous ces beaux événements. À Lyon 2, de 14h à 16h, à la faculté sur le campus Porte des Alpes, aura lieu une projection du documentaire « Parole de King » de Chris Lagg, réalisatrice, journaliste et photographe, dont le travail interroge la représentation et la place des femmes dans la société. Et la projection sera suivie d'un débat en présence de la réalisatrice.
Oui, ça c'est trop bien. C'est des filles qui se déguisent en garçons et qui ont un rôle de garçon. Et c'est voilà qui du coup questionne sur les genres et les représentations, notamment par l'habillement.
Ouais.
Voilà. toujours de 16h à 17h, à 18h pardon, à la faculté Lyon 2 de Bron. Vous pourrez, dans le cadre de la 3e édition du festival Fais pas genre, prendre part à une conférence débat sur le transféminisme, proposée par les Invisibles de Stonewall et animée par la sociologue Karine Espinera et les membres de l'association Chrysalide Asso. Dans la continuité du 8 mars, le samedi 11, dès 10h, aura lieu l'événement Chirose au lavoir public dans le premier arrondissement organisé par l'association HF Rhône-Alpes. Alors HF Rhône-Alpes, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un mouvement qui a pour but de démasquer et vaincre les inégalités hommes-femmes dans l'art et la culture. Ce sera donc une journée entière de théâtre, de rencontres, de conférences et d'ateliers pratiques artistiques pour mettre en valeur les héroïnes du passé, du présent et de l'imaginaire collectif, avec notamment des ateliers d'écriture menés par la talentueuse Béatrice Bienville, auteure étudiante à l'ENSAT, qui est une amie à moi, et une performance collective. C'est ça, et une performance collective sur le thème de Penthésilée, la reine des Amazones, menée par la sublime comédienne Nicole Mercier, qui est également une amie à moi.
Bisous pour voilà, elle. Hein.
Big up Nicole et Béa. Donc découlera de cette journée un militantisme festif dès 21h30 où Heroes et Chirose feront voler leurs capes et scintiller leurs costumes sur le dance floor. Donc on se retrouve là-bas samedi à 10h au lavoir public. En tout cas, moi j'y serai. Et enfin, le mercredi 8 mars, vous pourrez, pour toutes les femmes qui seront au travail ce jour-là, partir de votre boulot à 15h40. Oui, oui, 15h40. Alors pourquoi 15h40? Parce que c'est l'heure exacte à laquelle les femmes cessent d'être payées chaque jour, puisqu'aujourd'hui, en 2017, sur la base d'une journée standard à poste et à compétences égaux, les femmes en France gagnent encore 26% de moins que les hommes. C'est comme si tous les jours, elles arrêtaient d'être payées à 15h40. Alors mercredi prochain, faites-vous plaisir et partez vraiment à 15h40.
Little baby, don't say a word. Papa's gonna buy you a mockingbird. If that mockingbird don't sing, Papa's gonna buy you a diamond ring. If that diamond ring is brass, Papa's gonna buy you a looking glass. If that looking glass gets broke, Papa's gonna buy you a billy goat. If that billy Papa's gonna buy you a cartin' bull. If that cartin' bull turn over, Papa's gonna buy you a dog named Rover. If that dog named Rover don't bark, Papa's gonna buy you a horse and cart. If that horse and cart fall down, you'll still be the sweetest little baby in.